Bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Comment vous allez bien dans la chatroom?
On espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il a été reposant, pas trop froid, même s'il a fait froid.
Oula, on n'arrive même pas à voir l'écran derrière. Tellement c'est quoi cette lumière? Elle brille beaucoup la lumière là.
Bah oui, pourtant je vais bouger la lampe par rapport aux autres matins.
Bon, bah écoutez, nous sommes inondés de lumière.
Éblouis.
Attends.
Mais on voit personne là dans la chatroom.
Oui, on voit pas la chatroom. Que se passe-t-il?
Ah,
voilà.
Salut, j'ai plus le mot.
Il y a eu du lag dans la chatroom.
Salut Maurice.
Non mais on est voilà. Salut, et on attendait Samuel. Sans Samuel, on peut
salut
pas
salut Demu, salut Strauss. Enfin, Corentin. Salut JP Live. Fatigué, j'ai regardé Playoff NFL jusqu'à 5h. Ah oui, tu m'étonnes.
Oui, effectivement.
Salut Émilie Marie, salut Olivier, salut Pascal. Salut le tutorien, salut Alban, salut Yves, Florian, pardon. Salut Tic Takumi. Bon, ben, ça fait plaisir de vous retrouver pour commencer la semaine du bon pied en parlant actualité tech.
Eh bien, tout à fait, tout à fait. Et on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, ben, vas-y, je te laisse commencer.
Donc, on remercie Le Gaudin,
Claude,
Guillaume,
Milka Vam
et Elios.
Merci à vous, les contributeurs. L'image est blanche, oui, on est un tout... Attends, je vais la tourner un peu, la lampe derrière.
Oui, il y a Whisky ce matin qui squatte les genoux, là. Voilà, je ne sais pas combien de temps il va rester sur les genoux tout sage, mais...
Est-ce que ça va mieux?
Je ne suis pas sûre que ça change grand-chose, mais...
Bon, écoute...
Salut Adé, salut Demus. Bah oui, il fait froid.
C'est pire que tout.
Les températures sont négatives, là, on a vu à la météo, là, ce matin. Donc, il fait froid. Mais là, on est bien, on est au chaud, on est à l'intérieur.
Est-ce que, par hasard, tu peux baisser l'intensité des hues derrière nous?
Bah, pendant que je ferai le premier... sur mon smartphone.
Ah, merde, tu peux pas contrôler ta tablette?
Je suis pas sûre que j'ai mis...
Bon, on verra pendant le premier article. On va faire déjà le sommaire. Et puis, ben, sinon, ça sera un peu le Techscope inondé de lumière.
Non, j'ai pas.
Non, t'as pas. Bon, ben, on va pas pouvoir. Alors, moi, j'ai pas le contrôle sur tes You. Déjà, mon iPhone déconne ce matin, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à l'éteindre. Il a un problème.
Tu l'as rallumé?
Non, j'arrive pas à l'éteindre. J'ai pas pris le temps de regarder vraiment, mais je sais pas ce qu'il a, mon iPhone, ce matin. Il est très capricieux.
C'est du quel âge ce whisky? C'est de l'âge de 10 ans. Hein. Il commence à être bien mature, pas mal d'expérience, de corps. Donc voilà.
Non, nous n'avons plus le contrôle. Je suis bête. Il y a un contrôle tout simple sur les You. Hop.
Oui, tu peux baisser l'intensité.
Oui, mais on va être un peu dans l'ombre.
Bah oui, un peu de grain, oui.
Ouais. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et on voit toujours pas l'écran derrière. Bon, non, on a...
C'est étrange, quand même.
C'est un peu étrange, ouais. Non, c'est pas bon ce qui se passe. Tu sais quoi? On va y aller à la bonne vieille.
Jérôme, tu es surex, ça pique les yeux.
Oui, je sais. On va faire ça. Et on va faire ça.
Mais...
C'est mieux ?
On voit toujours pas l'écran.
On voit toujours pas
l'écran. Je sais pas ce qui se passe ce matin, les lumières sont affolées alors qu'on a les mêmes lumières que d'habitude.
Ah ouais, non, mais... et puis alors, on a aucun contrôle sur la... J'ai beau cliquer, il veut pas changer l'exposition.
Ouais. Bah, c'est pas très grave. Hein.
Bon, c'est pas très grave. Ouais, on peut pas faire mieux.
L'important, c'est de quoi va-t-on parler ce matin ? C'est quoi un peu l'actualité de ce lundi matin ?
Eh bien, on va commencer par Apple qui part encore un pattern,
un brevet
révèle une chose.
C'est pas un pattern, c'est un patent.
Un patent, oui, pas un patent. Révèle un truc hyper important, enfin, a priori, une grosse nouveauté qu'il y aurait sur les prochains iPhones.
Oh.
Donc, on s'empare de la news.
Mystère.
Tout à fait.
Et puis, on reviendra aussi sur la directive des droits d'auteur avec les fameux articles 11 et 13 qui portent à polémique dans pas mal de pays de l'Union européenne, justement. Et justement, ces pays ont dit qu'ils n'approuveraient pas le projet dans son état actuel. Et du coup, ça remet un petit peu en question cette directive. Voilà, on verra un peu ce qui s'est passé et à quoi ça peut mener, tout simplement.
On parlera de DJI et du rififi chez DJI. A priori, une fraude en interne leur ferait perdre des millions de dollars. Donc, je vous expliquerai un petit peu cette histoire.
Oh bah, il commence pas bien la semaine, non, en tout cas. Non. Et puis, on continuera avec Facebook qui, eux, dévoile une nouvelle fonctionnalité qui, je pense, risque de faire grincer des dents certaines personnes. Vous nous en direz des nouvelles dans la chatroom, ce que vous en pensez.
On fera le point aussi sur une dernière étude santé qui a été faite sur les téléphones portables. Depuis les années 90, on dit les portables engendrent des risques de cancer. Et bien là, c'est le résultat d'une dernière étude. A priori, les smartphones et les téléphones cellulaires, au sens large, auraient des risques, mais aucun ne mènerait au cancer de manière certaine, en tout cas.
Très bien, très bien. Et puis, on continuera avec, on terminera même, je ne sais pas si c'est le dernier article.
Oui.
On terminera avec, en prenant des nouvelles de Tisserie. Vous savez, Tisserie, on en a beaucoup, beaucoup parlé, mais avec PewDiePie. Et oui, parce que c'était la compétition de celui qui aurait le
pour
plus.
Pour l'instant, PewDiePie est encore en tête.
Il résiste, hein, il résiste.
Ouais, plus très longtemps, mais...
Mais voilà, c'était la compétition de la plus grosse chaîne YouTube. Vous savez que Tisserie est une chaîne qui rassemble des vidéos Bollywood, donc de culture indienne, de musique indienne sur YouTube. Et ben, ils ont conclu justement un accord avec Spotify, parce qu'au-delà de la présence sur YouTube, ils sont en tout cas une espèce de label pour la musique Bollywood, et justement ils ont conclu un accord avec Spotify pour être présent sur la plateforme. C'est un énorme accord que vient de signer Spotify, et ça montre un petit peu leur intérêt sur le marché indien.
Comme beaucoup. Et ben écoute, on va commencer tout de suite, on va parler effectivement de cette histoire que Apple aurait révélée de manière malencontreuse. On sait que Apple manie quand même très très bien aussi hein, tout ce qui est rumeur, sur une fonctionnalité du prochain iPhone qui paraît assez intéressante. On va en discuter ensemble. Effectivement, alors vous le savez hein, en ce moment, Apple... Putain, il n'y a rien qui marche ce matin. Mais je n'ai rien qui m'a... Ça y est, voilà, je mets sur le lignage. On le sait, hein, en ce moment, effectivement, Apple est un peu malmené, l'avenir des iPhones. On pense et on est à peu près sûr qu'il n'y aura pas la 5G sur la prochaine génération des iPhones, ce qui risque d'être un handicap marketing. Bah ouais, quand même.
Oui, non, mais d'accord.
Un handicap marketing pour eux, donc...
C'est un grand mot de dire que Apple est malmené, quand même.
Ouais, mais quand même. Et ils ont tout intérêt, effectivement, à se relancer dans la course aux rumeurs et qu'on discute du prochain iPhone.
Et on est en janvier 2019.
Et on est en janvier 2019. Et ils ont silencieusement posé un brevet pour une fonctionnalité, alors on va en discuter ensemble, qui prendrait des photos automatiquement. En fait, plus exactement, quand votre iPhone détectera que vous le prenez comme ça, hein, du bout des doigts, et que vous le mettez comme ça, il ouvrira automatiquement l'application et il cherchera un cadrage pour vous dire « Ah, vous pouvez prendre une photo », voire peut-être prendre la photo automatiquement. Si tu fais ça et que tu as ton enfant devant ton iPhone, hop, il va prendre une photo. Alors, fonctionnalité qui va en faire hurler certains, parce que là, on est quand même dans le truc un peu... qui peut être un peu creepy, mais quand on y réfléchit, moi, je me dis... ça, alors, qu'ils prennent la photo tout seul, non. Mais qu'ils ouvrent automatiquement l'app photo quand ils détectent que je fais ce geste-là, oui, ça, je trouve ça assez intéressant, effectivement, comme fonctionnalité.
Et pourquoi ils n'ouvriraient pas l'application YouTube ou Netflix quand tu fais ça?
Parce que je le tiens avec les doigts comme ça, ça veut dire je veux prendre une photo.
Ah, donc il va détecter.
Si je fais ça, je veux peut-être regarder YouTube, mais si je fais ça, c'est que je veux prendre une photo ou une vidéo.
Et si je fais genre, ben ça, je veux prendre une photo.
Eh ben, t'es une hérésie. On prend pas de photos verticales, c'est interdit. Eh ben, tu feras ça et ça.
Ah oui, c'est pratique.
Bon, disons que non, mais plus sérieusement, on va dire que quand même, il démarre plus du tout.
Putain, non mais... T'es maudit là,
je suis maudit,
en ce début d'année.
Je suis maudit des smartphones, ouais. Bon, bref, tout ça pour dire...
C'est moi où l'image est mauvaise, oui, désolé, on a des petits problèmes, elle est... Oula, Elle est toute. L'image est un peu dégueulasse, il y a beaucoup de bruit l'éclairage n'est pas super bon. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin, mais tout le monde est en grève. Il y a l'iPhone de Jérôme qui déconne, moi le mien, voilà, l'éclairage déconne. Bref, c'est pas très grave. Au bûcher, Marion, non mais hé
hey,
calmez-vous dans la chatroom.
Pourquoi au bûcher?
Je sais pas, ils m'en veulent. C'est peut-être ma faute si ton iPhone déconne et qu'on a une mauvaise image.
Ben, je sais pas. Non, mais il est devenu complètement fou, là, mon iPhone, ce matin. Bon, moi, je regarderai ça plus tard. Bref, tout ça pour dire, et c'est vrai que si on met ça en corrélation avec l'arrivée des caméras 3D de Sony, on sait que Sony et Apple ont signé des contrats, ça peut être des choses intéressantes. Parce que si, en plus de la détection de ton mouvement, genre, je veux prendre une photo, il y a une détection de l'objet, pour éventuellement proposer des cadrages ou se mettre automatiquement en mode portrait s'il détecte, par exemple, ou si en mouvement, il te propose directement. Il faut voir comment ils peuvent implémenter ça, mais ça peut être effectivement...
Ah voilà, tu prends les photos en mode vertical et résil bûcher. Merci, je n'avais pas fait le lien avec le... Il ne faut pas confondre. Hein. Quand on prenait des vidéos à la verticale, on pouvait crier à l'hérésie.
Mais plus maintenant,
mais des photos...
Trouve. Non, mais les photos, ça a toujours été... On peut très bien faire des photos verticales, je suis complètement d'accord avec toi. La vidéo, ma position commence à changer. C'est vrai que...
Alors que moi, je me rappelle qu'on avait partagé une des vidéos qui se moquait justement des gens qui prenaient des vidéos à la verticale. Et finalement, on était un peu conservateurs.
Hein. Ouais, bah, disons que le format vertical en vidéo a trouvé sa place. Dans les stories Instagram, il ne me viendrait plus à l'idée de filmer. Bon, après, c'est une vraie galère pour les vidéastes, parce que du coup, il faut réfléchir à quoi on va utiliser une image avant de filmer. Parce que c'est assez dur de recadrer une image en vertical quand tu as filmé en horizontal. Tout ça pour dire, est-ce que cette fonctionnalité sera que pour les nouveaux iPhones? J'en sais rien, je pense quand même... Est-ce que les gyros suffisent pour détecter ça? Moi, je pense qu'il y aura quand même quelque chose sur la position des doigts. Parce que si ça s'ouvre juste parce qu'on met à la verticale, ça va être galère. À l'horizontale, pardon. Ça va être galère d'avoir l'appli photo qui s'ouvre comme ça.
Oui.
Donc, il faudra vraiment qu'il détecte une position de doigt. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'iPhone puisse détecter la position de tes doigts sur le bord. Il faudra probablement quelque chose de tactile sur les bords. Ou...
Puis en plus, on a des coques.
Ouais,
on
ne sait pas.
Qu'est-ce qui va détecter la pression?
Je ne sais pas. Est-ce que ça sera compatible avec Rhino Shield? Je n'en sais rien. Salut Tristan. Donc,
bonne année, je ne t'ai pas dit bonne année encore.
Au-delà de ça, voyons un petit peu la stratégie des choses. C'est une bonne manière pour Apple de relancer un peu l'excitation sur une fonctionnalité qu'on n'aurait pas vue chez les autres. Ça, qu'on le veuille ou non, même si la 5G ne sera pas implémentée, ça risque d'être un gros caillou dans la chaussure en 2019 pour Apple de ne pas pouvoir mettre de la 5G dans les iPhones. Ça risque de leur faire prendre pas mal de retard. Donc, je pense par tous les moyens, ils vont essayer de mettre des nouveautés dans l'iPhone pour qu'on en parle quand même, quoi. Juste pour expliquer à ceux qui demanderaient, ça serait Qualcomm qui a refusé de vendre les puces qui permettraient aux prochains iPhones d'avoir la 5G. La 5G arrivera dans les iPhones en 2020, mais peut-être pas dans les modèles 2019. Mm. Donc, d'un point de vue marketing, c'est pas bon cette histoire pour Apple, quand même.
Bah, et après, à voir ce qu'ils vont nous réserver cette année, mais je pense que cette année, ça sera vraiment... concentré sur les services, quoi.
Oui, mais
Après, ils misent gros. Hein, mais...
Après, je parle uniquement en termes de RP, et enfin de relations presse, et de comment on va parler des iPhones. Mm-hmm. Sinon, pas la 5G, on n'aura que ce mot-là à la bouche. Tous les articles, ça sera « Ouais, il est bien le nouvel iPhone, mais bon, il n'a pas la 5G. »
Une fois, tu as toujours les deux parties où tu as les Android qui sont toujours les premiers à sortir des fonctionnalités à moitié pensées, et tu as Apple qui est toujours en retard, mais au moins, c'est bien pensé.
On va voir, mais
je
pense que ça va... En tout cas, cette absence de 5G risque de peser sur les ventes d'iPhone, du nouvel iPhone en 2019.
Oui, voilà, Yomeno, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le temps que la 5G soit vraiment déployée, je ne pense pas que ce soit un vrai problème. Oui, ça a plus
pour
un
les
problème
utilisateurs,
de communication, quoi.
Oui, voilà. Pour les utilisateurs, à mon avis, ça n'a pas changé grand-chose. On n'aura pas la 5G vraiment en 2019. Mais c'est plus... dans la vente. Mmh. Les gens, est-ce qu'ils vont acheter un iPhone, sachant qu'un iPhone, on garde 3-4 ans, un iPhone qui n'aura pas la 5G. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que tu fais, là, Whisky?
Il est très, très collant, ce matin.
Très, très collant. On verra si ça pénalise et que, pour le coup, Apple a intérêt à, effectivement, essayer de mettre de l'innovation dans ses iPhones pour essayer d'en vendre.
C'est exactement ça, presse à grumeaux. Il se cale entre ces deux radiateurs, ouais.
Exactement.
Tout à fait.
À toi, Marion.
Eh ben, nous, on va parler d'un sujet dont on a déjà pas mal abordé. Hein. C'est évidemment la directive européenne sur les droits d'auteur. Et je sais qu'on a déjà pas mal parlé justement des deux articles qui portent polémique. L'article 11 et l'article 13. Il est stressé pour son iPhone, je comprends.
Un peu, oui.
Je serais aussi stressée. Donc, les articles 11 et article 13, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, comme vous le savez, ils font débat depuis des mois déjà. Et de plus en plus de pays disent, en fait, s'expriment sur le sujet comme quoi ils n'approuveront pas la directive dans son état actuel, avec l'état de ces deux articles dans leur état actuel. Et ils ont même annulé une des réunions qui portait justement à discuter de cette directive européenne qui était censée avoir lieu le 21 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui.
Oui, oui, c'est aujourd'hui.
C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans l'actualité hein, chez Naotech. Et voilà, il y a pas mal de doutes hein, qui ont été exprimés à cause de ces deux articles. Alors, pour rappel, c'est quoi ces deux articles? Parce que c'est toujours bien quand même de se rafraîchir la mémoire. Alors, l'article 11 remet en cause, pour moi, un des fondements d'Internet, qui est le partage de liens hypertextes et de pouvoir partager des contenus, lier des contenus entre eux. C'est justement que lorsque vous souhaitez mentionner par exemple un journal ou une source, il va falloir au préalable demander l'autorisation à cette source d'être citée. Donc là, on peut prendre évidemment l'exemple de Wikipédia qui vit et qui est construit sur ces sources-là et ces citations, où à chaque fois que vous devez, dans un article, inclure une source, vous devez au préalable demander l'autorisation, ce qui n'est évidemment pas viable, surtout pour Wikipédia. Alors même s'ils ont pensé à une dérogation spéciale pour Wikipédia, ce n'est qu'un exemple très concret où on peut s'imaginer le problème que ça peut représenter justement pour les différents sites et même le fondement même d'Internet.
Oui,
ça
oui,
touche
bah,
vraiment
oui.
au fondement même d'Internet. Un autre exemple, c'est évidemment par rapport à Google News. Google News qui repose évidemment sur les liens sources, des articles sources, pour proposer ce service d'agrégation comme un agrégateur de news. Vous savez qu'en Espagne, il y avait déjà eu cette affaire comme quoi l'Espagne avait obligé Google à payer pour pouvoir rémunérer hein, les journaux qui étaient mentionnés dans Google News.
Ouais.
Et ben, ils avaient fermé tout simplement le service qui avait impacté évidemment le nombre de visites et de lecteurs de ces journaux. Et du coup, ils avaient fait rapidement marche arrière parce qu'en effet, Google, malheureusement, c'est pas, voilà, il faut voir les deux faces hein, un peu de la pièce. C'est-à-dire qu'il y a un côté où, en effet, Google va se reposer sur ses sources pour pouvoir alimenter son application et son service. Et en même temps, ils vont apporter des utilisateurs, des visiteurs, de la visibilité à ces articles. Donc, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc, je ne sais pas si c'est exactement 50-50, mais en tout cas, ce n'est pas aussi simple qu'on aimerait le croire. Donc voilà. Et donc là, justement...
Oui, enfin, on peut parler aussi d'abus de position dominante
tout
hein,
à fait, tout à
pendant
fait.
Le cas de Google. Hein.
Donc, du coup, il y a aussi ce côté-là où, évidemment, Google, avec ses services, mais pas uniquement Google, sera impacté par cet article 11. Et puis, pour l'article 13, de quoi il s'agit? Donc là, ça cible un peu plus les plateformes vidéo, hein, type YouTube, Dailymotion et compagnie, qui, en fait, aujourd'hui, sont considérées comme des hébergeurs de contenu, simplement. Donc, ils n'ont pas d'obligation de retirer du contenu qui a été mentionné comme enfreignant les règles d'utilisation de la plateforme. Ils ne sont pas tenus de l'enlever parce qu'ils sont considérés comme simples hébergeurs. Là, avec cet article 13, ça va renverser la vapeur ou en tout cas, ils devront enlever de manière proactive le contenu qui enfreigne les règles de la plateforme. Donc, ça veut dire qu'il y aurait beaucoup plus de bannissement, beaucoup de contenu enlevé avant qu'il soit mis en ligne.
Ben, on en avait déjà beaucoup parlé, mais le gros truc qui nous pend au nez si l'article 13 passe dans l'état, c'est que YouTube, comme il sera responsable du copyright de toutes les vidéos qui sont dessus.
Et
de manière proactive, c'est ce qui se dit chez YouTube, c'est que du coup, ils mettront 3-4 jours à valider nos vidéos avant qu'elles sortent. Autant dire que c'est la mort du YouTube tel qu'on le connaît. Si nous, on devait subir un minimum entre une semaine et 3 jours de validation de nos vidéos, autant dire qu'on ferme la chaîne. Ça ne sert plus à rien de faire des vidéos. Quand on est sur l'actu, par exemple.
Oui, quand on est sur l'actu.
Ouais, mais d'une manière quand même assez... Oui, mais en gros, ça ne laissera la place qu'à des infrastructures suffisamment grosses pour pouvoir anticiper, qui auront des avocats sur les droits, etc. Donc, c'est la mort du YouTuber user-generated content, comme on dit.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je suis d'accord que ça sera énormément, enfin très 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 problématique pour ceux qui vivent sur l'actualité, mais ce qui est plus problématique encore une fois, c'est que c'est les petits qui vont être pénalisés, parce que c'est, ils auront encore moins de moyens de se défendre, comme tu l'as dit. Mais c'est pas tant lié à l'actualité là, c'est lié à la force de frappe, et pas que lié à l'actualité, et du coup ça veut dire aussi être bien plus strict que ne l'est YouTube aujourd'hui. Et donc, en termes de liberté d'expression, on se plaint déjà aujourd'hui de la liberté d'expression et de la liberté d'avoir des vidéos diverses et variées sur la plateforme avec les moyens de monétisation qui, quand même, ont largement tendance à favoriser le contenu mainstream de plus en plus aujourd'hui. Hein, vous allez voir, vous n'avez qu'à voir le fonctionnement de la pub aujourd'hui. Et ben là, c'est encore aggraver la situation. Donc voilà pour l'article 13. Et évidemment, ça va être relativement facile à implémenter pour les grosses plateformes type YouTube et compagnie. Ça sera un vrai, vrai danger pour des plateformes qui voudraient venir concurrencer.
Ça tuera la concurrence.
Exactement, pour venir concurrencer les plateformes déjà existantes. Donc ça va favoriser un monopole du marché par ces plateformes déjà prédominantes sur le marché. Et donc du coup, c'est pour toutes ces raisons. Alors, une raison qui est évidente, c'est évidemment pour les deux articles, la difficulté de mise en place de ces règles. C'est...
Les gens dans la chatroom parlent des lives, évidemment. Ça peut pas... Du coup, soit il faut arrêter les lives parce que ça marche plus, mais tu peux pas contrôler un live au niveau de son contenu avant qu'il soit en live, quoi.
Donc du coup, c'est un vrai problème et on voit pas comment ils peuvent mettre en place de manière concrète ces règles-là. Et donc c'est sur ce manque de réalisme et de crédibilité d'application de ces articles-là que cette directive européenne des droits d'auteur est largement critiquée. Et donc du coup, on va voir ce qui va se passer, mais ils doivent réexaminer, ils ont jusqu'à la fin du mois de février pour valider une nouvelle version du texte.
Ouais. Pour dire les choses clairement, voilà, l'article 11 et 13... À mon avis, ils ne passeront pas dans la version la plus catastrophique.
Maintenant, ils ont déjà été retravaillés. Hein. Ils sont déjà plus light, ça ne les rend quand même pas facilement applicables. Quoi.
Ouais. Et très honnêtement, là, je rebondis sur un commentaire de quelqu'un qui dit « mais ça va faire comme la télé et tout ça ». Non, le problème, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Les télés ne sont pas soumis justement... Enfin, eux, ils ont un droit de citer, par exemple, de prendre des bouts de contenu des autres, et ils vont pas se prendre un strike dans la gueule, la télé, quoi. Et quelque part, le droit de citation est utilisé par la télé et inutilisable sur YouTube. Aujourd'hui, vous mettez la moindre microseconde d'un contenu qui ne vous appartient pas, même si c'est pour en faire la parodie ou l'information ou quoi que ce soit, vous êtes bloqué 100%, au meilleur des cas, 100% de vos revenus passe à l'ayant droit de cette une seconde de contenu, et au pire des cas, votre vidéo, elle est bloquée, et au pire du pire, vous prenez un strike.
Il y avait quand même une comparaison qui était intéressante par rapport à la télé, c'est justement sur la problématique de live, c'est qu'on risque, encore une fois, tendre vers du contenu plus mainstream, comme la télé, et du contenu qui n'est plus réellement en live, comme la télé, c'est-à-dire avec du différé de 8 minutes, pour laisser le temps, justement, au régulateur, entre guillemets, de vérifier le contenu. Mais ça veut dire, encore une fois, tuer le live comme il est considéré aujourd'hui sur Internet, c'est-à-dire encourager l'interaction Parce qu'avec un différé de 8 minutes, vous imaginez qu'interagir avec la chatroom, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais.
Le droit à l'information, on va le dire très clairement, il n'existe pas sur YouTube aujourd'hui, et ça sera encore pire si l'article 13 passe dans l'État. On n'aura pas le droit de citer quelque chose qui n'est pas à nous directement.
Dites-vous bien qu'il y a quand même une complexité intrinsèque à Internet, qui est le fait que Internet est international, la télé est nationale. Donc la télé, elle peut se permettre justement d'avoir de ce genre de règles, ce genre d'autorisation de partage de contenu. Le problème, c'est que les règles sont vraiment liées au pays ici. Ouais. Et du coup, ben, le problème, c'est que YouTube doit, eux, de leur côté, gérer... enfin, appliquer des règles en fonction des pays, c'est genre un casse-tête. Voilà. Mmh. Les plateformes ne le font pas, honnêtement.
J'ai une vidéo bloquée, faite de l'école de mon fils, où il dansait. L'école a payé les droits d'auteur avant la fête, et ma vidéo est restée. Oui, alors, ça, c'est typique, hein, si tu enregistres ton fils à la fête de l'école qui dansait, s'il y a de la musique. Moi, ça m'est arrivé avec une vidéo du CES, où dans un stand 3 mètres plus loin, il y avait une musique qui passait, ben, boum, ça m'a bloqué la vidéo.
Parce si la vidéo est monétisée, non ?
Oui, en fait, quand je dis bloquée, ça l'a démonétisée.
Ouais. Mais voilà, bah, il suffit de ne pas monétiser, quoi.
Oui, mais là, non, mais tu tues...
Là, oui. Là, je parle pour cette vidéo.
Pour cette vidéo, je parle pas de... Ne cherchez pas à monétiser vos vidéos. Si, effectivement, il n'y a plus de monétisation possible, autant dire que c'est la mort des youtubeurs indépendants, quoi.
Et franchement, c'est là où moi, j'apprécie énormément ce fonctionnement de monétisation, c'est les abonnements. L'abonnement YouTube, je dis ça mais j'ai arrêté mon abonnement, qui permet de ne pas être, de ne pas discriminer le contenu. C'est-à-dire que ça va rémunérer les créateurs en fonction de ce que tu décides de regarder.
Tu décides de regarder, ouais.
Voilà.
Mais aujourd'hui, bon, après, c'est trop un épiphénomène. Ça ne représente rien aujourd'hui
de la monétisation YouTube, puis c'est ce qu'il faut garder en tête, quoi.
Bon, soyons vigilants en tout cas sur ces articles et sur les directives européennes. Ceux qui auraient dû être vigilants aussi, c'est DJI, ou en fait, je dis ça, mais les pauvres, on va dire les pauvres, parce qu'a priori, ils seraient victimes d'une fraude en interne, et pas d'une petite fraude genre je pique les crayons de papier en fourniture. Il y aurait une fraude massive en interne chez eux qui leur aurait fait perdre 150 millions de dollars. En fait, ça serait une fraude sur les pièces de réparation, en fait. Il y a une espèce de revente en interne des pièces, c'est des contrefaçons, il y a un marché noir, effectivement. Et aujourd'hui, on apprend que DJI aurait, emploie 14 000 personnes et que là, du coup, ils sont en train de virer à tour de bras, que ça serait vraiment une fraude assez massive chez eux et organisée sur un ensemble de pays. Ça doit être très désagréable pour un patron de s'apercevoir qu'en interne, dans ta propre société, tu te fais siphonner, en fait.
Trahison.
C'est quand même... Là, on parle de 150 millions de dollars. C'est pas rien sur un chiffre d'affaires d'une boîte comme DJI.
Parce que c'est quand même relativement récent, DJI, comme boîte.
Ça a une dizaine d'années.
Pour organiser un réseau comme ça à travers les pays.
On va être très sectaire en disant ça, mais c'est vrai que la Chine a un rapport aux pièces détachées qui n'est pas exactement le même qu'en Europe. Et qu'il y a peut-être des cultures du bakchich, j'en sais rien. Hein. Je ne fais que supputer, mais là, c'est quand même à grosse échelle, à une grande échelle. Et c'est vrai que DJI, ayant cette position dominante, voire écrasante en tout cas sur le drone, on va dire prosumer et semi-pro, ça a dû éveiller des convoitises. Il y a énormément de produits quand même qui transitent. On le sait aussi hein, que sur les drones, il y a beaucoup de pièces détachées. Qui sont à la vente, etc. Alors, je ne sais pas exactement sur quoi porte cette fraude. Est-ce que c'est sur la fabrication de leurs drones ?
Ça représente environ 10% du chiffre d'affaires.
10% du chiffre d'affaires, oui, c'est quand même pas rien. Donc, DJI précise qu'ils reprennent les affaires en main, qu'ils ne vont pas hésiter à virer beaucoup, beaucoup de monde et que l'affaire risque de remonter, entre guillemets, très, très haut. On sent qu'ils sont un peu vénères quand même chez DJI. C'est vrai que quelque part, ils n'ont pas besoin de ça en ce moment parce que DJI, ça va bien. Mais le marché du drone se tassant, on l'a vu avec l'Osmo Pocket, DJI est en train de changer de braquet et de chercher des nouveaux marchés vite fait. Alors, c'est des marchés qu'ils avaient déjà, hein, le stabilisateur, etc. Mais je ne pense pas que le drone soit vraiment un marché d'avenir, vu que les régulations de beaucoup de pays sont en train de se renforcer, qu'il est de plus en plus difficile pour le grand public de faire voler des drones de manière libre, on va dire, quand on a envie. Je ne vois pas les gens faire voler leurs drones uniquement dans des parcs de drones. Ça va tuer aussi un petit peu l'intérêt du drone. Donc DJI, c'est pas le moment de perdre de l'argent, quoi. Ils doivent investir dans de nouveaux marchés. Donc on verra, hein, l'histoire risque d'avoir des rebondissements. Donc c'est à suivre.
Très bien, très bien. Et puis, je vous propose de continuer avec Facebook. Facebook qui va, hein, des nouvelles fonctionnalités sur son réseau social. Et là, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est assez étonnante quand on connaît le contexte un petit peu et les difficultés qu'en rencontre Facebook concernant les fake news, les
infox. On appelle ça les infox maintenant.
Ah ouais ?
C'est l'académie qui a dit ça. C'est pas si mal, un fox.
Un fox. Ok. Donc, les infox, quand on connaît la difficulté que rencontre Facebook pour justement lutter contre ça, et contre aussi les pages racistes, etc., qui vont cibler des minorités et les insulter, les harceler, etc. Bref, il y a des vraies problématiques de respect des autres. Sur la plateforme, et en fait ils ont sorti une fonctionnalité qui est une fonctionnalité de pétition, tout simplement, sur la plateforme. Imaginez en fait qu'un groupe d'individus ou une personne puisse lancer une pétition comme ça sur un sujet et pouvoir recueillir l'approbation en fait de personnes, d'un groupe de personnes, etc., pour faire entendre sa voix, discuter de sujets. Donc ça va en gros créer une pétition avec sa propre page pour la pétition, un flux d'actualité, un flux qui sera dédié aux personnes qui ont soutenu cette pétition, et donc du coup qui pourront échanger sur le sujet entre elles sans que les personnes extérieures y aient accès. Voilà. Alors là, il y a ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça va être encadré et ça sera dédié à... En tout cas, encourager des actions gouvernementales. Donc, ce n'est pas comme change.org aujourd'hui, ouais, où vous pouvez trouver n'importe quoi, n'importe quoi comme type de pétition sur change.org. Mais en tout cas, là, sur Facebook, ça sera limité dans un premier temps, en tout cas, à la promotion, à l'encouragement d'actions gouvernementales en s'adressant à des représentants politiques, etc., de votre secteur. Voilà, pour faire un peu pression et montrer un petit peu les intérêts de la communauté. Voilà. On peut se dire à première vue que la démarche est intéressante, elle est louable, elle va donner une voix à la communauté et leur permettre de s'organiser.
Ça peut donner un vrai repositionnement à Facebook aussi, hein, de s'occuper de problèmes locaux, enfin de... C'est quand même un lieu, Facebook, où les gens vont encore pour choisir ce qu'ils vont faire le week-end, pour organiser les anniversaires, leur vie locale.
Moi, c'est là où je vois les pétitions. Hein.
Ouais.
C'est là où je vois les pétitions, ouais, change.org sont partagées.
Donc, c'est pas si bête en termes de positionnement pour Facebook, surtout vu sa nouvelle... la population vieillit sur Facebook... donc ça peut lui donner du grain à moudre, comme on dit.
C'est pas du tout bête, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est très clairement aligné avec les objectifs de Mark Zuckerberg depuis un certain temps, qui lorgne quand même du côté de la politique, hein, ouais, et qui souhaite donner une voix aux citoyens, aller à la rencontre des citoyens, leur permettre de s'exprimer sur leur problématiques, leurs souhaits, leur quotidien. Et donc là, c'est donné un moyen. C'est pas le premier moyen qu'ils avaient déjà fait.
En bon reptilien, il repère ses proies. On le sait.
C'est pas sympa. Mais c'est pas la première fonctionnalité qu'ils avaient sortie sur Facebook. Hein. Ils avaient notamment sorti la fonctionnalité Town Hall Candidate Info, qui permet du coup d'avoir plus d'informations sur les candidats politiques, etc. Il y avait aussi l'outil Community Help pour trouver de l'assistance lors d'un désastre, etc. Donc, il y a plein d'outils maintenant qui gravitent sur la plateforme Facebook pour que ça devienne justement un outil communautaire.
Ouais.
Ça l'était déjà, mais là, encouragé encore plus, et notamment l'action civique. Là où c'est un petit peu plus problématique, c'est aujourd'hui, Facebook galère déjà à gérer les discours de haine et les infox, sur, comme dit l'Académie française, sur la plateforme. On imagine mal comment ils vont réussir à gérer de manière positive et encourager les actions positives et les demandes positives de la plateforme sans que ça parte en n'importe quoi,
ouais,
et en discours haineux, racistes, qui vont donner du coup un espace à ces groupuscules qui vont cibler des minorités,
ouais,
et leur donner un channel dédié où ils pourront s'encourager dans leur discours haineux, etc. Là je parle de ça, mais c'est d'autres problématiques aussi, hein.
Si tu laisses aux gens le pouvoir de faire n'importe quelle pétition, on va voir n'importe quel type de pétition, ça c'est clair.
Oui, et puis on voit que ça, voilà, ces réseaux sociaux, ils encouragent le meilleur, mais le pire aussi.
Oui, oui, oui.
Et le problème, c'est que Facebook aujourd'hui, ça fait des années maintenant, depuis Cambridge Analytica, qui nous disent qu'ils vont faire des efforts, et en fait, ça ne fonctionne pas, pas suffisant en fait. Et donc là, au lieu d'essayer de prouver qu'on peut leur faire confiance, eh ben ils vont sortir une nouvelle fonctionnalité qui va potentiellement encore donner plus de pouvoir et de danger à Facebook.
Ouais.
Donc à voir comment ils vont gérer ça. Pour l'instant, ils ont dit qu'ils allaient lancer ça en test aux États-Unis, etc., le déployer dans un premier temps, et puis qu'ils vont adapter les outils en fonction du succès et de l'usage, ce qui est assez logique, hein, mais encore une fois, il faut y aller avec des pincettes, quoi.
Ouais, ouais. Pas simple, toutes ces histoires. Mon iPhone qui est complètement taré, là. Je sais pas ce qu'il a, mais...
Ouais, il déconne complètement.
Là, l'iPhone. C'est rare, mais...
Tu peux pas du tout l'éteindre.
Je peux même pas l'éteindre. Bon, bref, je verrai ça. Ça me déconcentre, mais je verrai ça plus tard. Parlons un petit peu des cell phones, donc des téléphones cellulaires, les smartphones faisant partie des téléphones cellulaires. Et c'est vrai que depuis que les téléphones cellulaires existent, on parle des risques pour la santé. Je me souviens, dès l'arrivée des téléphones cellulaires, on disait il faut pas les mettre dans les poches de jeans parce que ça rend stérile.
Faut pas dormir
à côté parce que ça vous grille le cerveau. Faut utiliser des écouteurs pour pas l'avoir trop près de la tête, etc. Il y a beaucoup à la fois de croyances, de peurs autour des téléphones cellulaires, et beaucoup d'études ont été menées, mais aucune est vraiment concluante. Aujourd'hui, beaucoup vont dire, alors on a même fait l'indice, tu vois, pour dire les ondes qu'émettaient les smartphones et que c'était plus ou moins dangereux, mais en fait, aucune étude n'est vraiment concluante, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il faut être précis là-dessus. C'est pas concluant ni dans un sens ni dans l'autre. On ne peut pas affirmer à 100% que c'est dangereux, on ne peut pas affirmer à 100% que c'est sans danger. Donc les recherches continuent, et là justement on a l'étude une nouvelle étude qui a coûté quand même 30 millions de dollars, qui a duré 10 ans et qui est quand même une grosse étude, et qui en arrive un peu aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que pour la faire simple, c'est une étude qui a été faite sur des souris. Ne me demandez pas pourquoi ça n'a pas été fait sur des humains. D'après ce que j'ai compris, on ne peut pas faire n'importe quel type d'étude n'importe quel... Si on fait sur des humains, et c'est très difficile, par exemple, c'est ce qu'ils disent dans l'article, d'avoir une population humaine qui ne va pas utiliser de téléphone cellulaire, ou qui ne va pas être à proximité du téléphone cellulaire, donc on n'aura pas une population au test qui n'aura pas de cellulaire. Donc certaines études sont plus simples à faire sur des souris. On sait que les souris n'arrêtent pas, en plus, de s'appeler entre elles avec leur petit téléphone cellulaire.
Bah oui, pour comploter, pour conquérir le monde.
Pour conquérir le monde.
Ça diminue ses cortex.
Ouais, tout à fait. Et en fait, ils en arrivent à la conclusion que, oui, il y a des types de cancers qui ont été développés dans ces populations de souris, mais il est impossible de trouver un corollaire sérieux avec l'utilisation du smartphone. Et qu'en fait, tout ce qui tendrait à le prouver est plutôt une démonstration qu'il y a un facteur chance de développer un cancer, mais qui n'est pas lié au téléphone cellulaire. Je n'ai pas tout compris, hein, parce qu'il parle beaucoup de la méthode scientifique dans cet article, mais aujourd'hui, en fait, cette grande étude hein, scientifique, ce grand truc qui a duré quand même 10 ans, on arrive toujours à la même conclusion qu'on ne peut rien affirmer. Mais que justement, puisqu'on en est encore au point de ne rien pouvoir affirmer, scientifiquement, il est presque plus prudent de dire que ça n'est pas dangereux que de dire que c'est dangereux. On est arrivé un peu aux mêmes conclusions avec les lignes à haute tension aussi. Ça a été des choses très difficiles à reproduire et à mettre un corollaire certain entre le développement de cancer, notamment chez les enfants, et la présence des lignes à haute tension. Je sais que c'est difficile à accepter parce qu'on a aussi beaucoup de croyances par rapport à ça. Et on a envie que ces trucs-là soient un petit peu dangereux, je pense.
C'est intéressant de savoir, mais qui a, si on a l'info, qui a financé l'étude ?
Alors, est-ce que c'est écrit dans l'article ?
Parce que du coup, ça pourrait potentiellement orienter le...
National Toxicology Program qui a mené l'étude. Alors, on va chercher le National Toxicology. National. Qu'est-ce qui se dit dans la chatroom? Toxicology.
On nous demande le micro-ondes, principe de précaution.
Alors, US Department of Health and Human Service. Donc, ça a l'air d'être un truc fédéral aux États-Unis, en tout cas. Ça a l'air d'être un truc fédéral aux États-Unis. Puisque c'est un truc USA.gov, donc ça a l'air d'être fédéral. Ça n'a pas l'air d'être un truc privé, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, je n'en sais rien. Un peu comme les cancers de la peau, certains peuvent être soleil zéro problème, d'autres peuvent choper. Ouais, mais encore une fois, là, on peut dire beaucoup de choses, mais après, il y a la méthode scientifique. Et c'est ce qui est intéressant dans cet article, il parle de méthode scientifique. Et comment on ne peut pas arriver à des conclusions, malgré nos croyances et nos envies de croyances, de dire il faut des principes de précaution, on ne sait pas bien, etc. Aujourd'hui, en tout cas sur cette étude qui a duré 10 ans, il n'y a pas de preuve, rien de conclusive, comme on dit en anglais, que l'apparition de certains cancers soit liée à l'utilisation de téléphones cellulaires. Donc, voilà. N'achetez jamais. Après, moi, je parle que, d'abord, je parle que de l'article et je ne parle que de la méthode scientifique. Après, on peut appliquer des principes de précaution aussi si on a envie. Hein. Mais aujourd'hui, de dire que les téléphones cellulaires sont dangereux, ce n'est pas une vérité scientifique. Et de dire qu'ils ne sont pas dangereux est de plus en plus vrai quand même. Qui n'ont pas d'influence, en tout cas, sur le développement des cancers. Qui sait, pourquoi ça te fait rire? Si, t'as quelque chose à dire?
Non,
pas du tout. Tu me vois m'empêtrer dans, ouais. dans l'article. Et il n'est pas simple, il n'est pas simple parce que
non, mais c'est sûr,
j'ai pas tout simple. Compris. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'il y a le côté irrationnel de ce qu'on a envie de croire et des lois qu'on a envie de voter et de dire... C'est dangereux, principe de précaution. Et après, il y a les scientifiques qui vous disent « oui, mais non ». Voilà, désolé, non. Selon la méthode qu'on a appliquée, non, il n'y a pas de preuve formelle. Donc, tu as toujours les gens qui vont dire « oui, mais s'il n'y a pas de preuve formelle, il n'y a pas de preuve formelle du contraire ». Ce que dit le principe scientifique, c'est que s'il n'y a pas de preuve formelle du contraire, ça fait rentrer plutôt le facteur chance. Donc oui, tu vas développer des cancers, mais ils ne sont pas forcément liés à l'utilisation de ton téléphone cellulaire. Voilà. C'est tout ce que l'article dit.
Je vous propose d'enchaîner avec le dernier article du jour qui va nous proposer de nous divertir un petit peu, et ça en compagnie de contenu Bollywood. Alors, il y en avait qui se moquaient de la manière dont je prononçais le mot Bollywood. Désolée hein, si je le prononce mal. Et donc, en fait, il s'agit d'un deal, d'un contrat qui a été signé entre T-Series et Spotify. Donc, T-Series, vous le connaissez parce que c'est justement la chaîne YouTube qui est en compétition.
T-Series déclenche chérie. Hein. T-Series. T'as dit T-Series. Vas-y.
T-Series.
Ah, ça l'a déclenché tout à l'heure. Bon.
D-Series. Ouais, l'analogie.
Pourquoi tu déclenches mon Siri à moi et pas le tien ?
Parce que moi, je l'ai désactivé.
Ah oui, d'accord, effectivement. Ouais.
C'est pour dire comment j'utilise les assistants.
Ah ouais, d'accord, je vois.
J'en ai pas l'utilité sur mon iPad.
Ouais.
Je l'ai gardé, je crois, sur mon iPhone, mais pas sur mon iPad. Et donc, du coup, voilà, ils ont conclu un deal qui permet à Spotify de récupérer sur sa plateforme plus de 160 000 chansons qui font partie du catalogue de T-Series. Et donc, beau contrat. Hein, et justement, c'est pas anodin. Il faut savoir quand même que sur Spotify, il y a... alors, attendez. J'avais le chiffre tout à l'heure. Hop, hop, hop. Il y a quand même 30 millions d'utilisateurs, d'abonnés Spotify qui sont potentiellement des personnes qui écoutent la musique Bollywood, donc qui sont sujets. Soit ils ont fait des recherches liées à ça, etc. Donc là, ils vont réussir justement à cibler un public qui n'était pas encore satisfait des utilisateurs actuels de Spotify, qui n'étaient pas satisfaits de la plateforme. Et encore au-delà de ça, ils s'ouvrent complètement au marché indien, à savoir que pour l'instant, Spotify n'est pas disponible en Inde, mais ça pourrait potentiellement justement ouvrir la fenêtre. Donc, ils ont déjà pas mal de compétitions en Inde. Il y a les services du type JioSaavn, Gaana, Airtel, Wink Music et notamment Apple Music et Google Play Music, évidemment, qu'on connaît déjà. Mais il y a déjà pas mal de compétitions hein, sur le marché indien. Mais voilà, il y avait déjà des annonces, notamment en novembre 2018, Variety qui avait fait savoir que sous 6 mois, Spotify devrait annoncer son arrivée sur le marché indien. Donc, on va pouvoir chronométrer l'annonce de Spotify qui nous dira donc qu'ils arrivent sur le marché indien. Donc en tout cas, Spotify se développe et là ils viennent de signer donc un accord majeur avec l'un des plus gros producteurs de musique Bollywood.
Indien voilà. Vaut mieux que deux, tu l'auras. Pardon à l'ensemble des Indiens pour ce jeu de mots vaseux.
Voilà, c'était le dernier article du jour. J'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour soutenir Naotech.
Regardez, l'exposition commence à être meilleure. Là, ça y est, on voit le miroir. On n'a plus la grande...
Le jour s'est levé.
Ouais, le jour s'est levé. Ça a rééquilibré le... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me demande s'il y a... Mais c'est quoi cette lumière qui se reflète à fond dans le miroir ?
Mais c'est celle-ci.
Ah ouais. Ouais. Il va falloir qu'on revoie. Bon, de toute façon, on n'a eu que des problèmes techniques, là. Il y a plein de trucs mystérieux.
Oh, t'es grognon, là,
ce matin. Ouais, il doit y avoir des souris pleines d'ondes qui se baladent.
Je t'ai dit, c'est Minus et Cortex. Ça.
C'est Minus et Cortex, c'est un complot, en fait.
Je me suis fait rire toute seule tout à l'heure en sortant la référence.
Est-ce qu'il y a des études scientifiques sur les effets de jeu de mots de Jérôme ? Écoute, pour l'instant, rien de concluant. On ne sait pas si les jeux de mots de Jérôme font rire ou pas. Malgré 10 ans d'expérience, on n'est pas arrivé à une conclusion notable. Est-ce qu'il y a une question Platinium ? J'ai pas vu s'il y avait une question Platinium. Est-ce que Samuel nous a dit quelque chose, Marion ?
Mais écoute, pour l'instant, non. Pas de question Platinium.
Pas de question Platinium.
Merci,
donc, on va prendre directement vos questions. J'ai vu qu'il y avait une question qui arrivait au-dessus. Comment reconnaître les objectifs haut de gamme de chez Panasonic avec ceux avec une très bonne... Ah oui, tu veux dire, est-ce qu'il y a une série L chez Panasonic ? Non, mais tu peux assez... tu peux reconnaître avec le prix. En fait, il y a certains objectifs chez Panasonic qui valent très cher. Chez Olympus, il y a une vraie série. Il y a une série, c'est pas les L, c'est les Mister quelque chose, qui sont les hauts de gamme. Mais sinon, de toute façon, il y a une règle relativement simple.
Si... Alain Milovre nous dit que c'est les, ceux à quatre chiffres.
À quatre chiffres tu veux dire au niveau du prix? Oui. Ah. Oui, peut-être. Mais de toute façon, au-delà de F1.8, généralement, ça commence à devenir un petit peu cher, quoi. Mais le prix en euros est un bon indice. Hein.
Serez-vous présent au salon de la radio et télévision?
Non. Je ne savais même pas qu'il y a un salon de la radio et
télévision. Combien je pourrais...
Pardon.
Combien pourrais-je vendre un iPad Pro 12,9 pouces, première génération, 32 gigas? Mac tout seul n'étant plus mis à jour, je suis largué. Ah mince, il est plus mis à jour.
Moi, je peux pas te dire non plus. C'est là où je regarderai aussi. Hein. J'ai pas les prix de l'occasion en tête sur tous les modèles.
Ouais, il faut voir l'argus.
C'est un combien de gigas? Un 32 gigas? Ça, à mon avis, ouais, tu peux le vendre dans les 300, mais... 300, peut-être 350. Mais je ne voudrais pas dire de conneries. Hein. Mais 32 gigas, c'est petit en gigas pour un iPad. Donc, ça va forcément faire pas mal baisser le prix, ouais, de l'occasion. Pourquoi tu dépasses jamais 9h quand tu es avec Marion? Parce que sinon, elle me trucide.
Parce qu'en fait, petite raison toute bête, j'ai le trajet pour aller au travail et l'émission est censée s'arrêter à 9h.
Oui, et puis moi, c'est vrai que bah, là, je ne suis pas à l'atelier. Donc moi, il faut que j'aille à l'atelier aussi après. Tout ça, c'est des minutes, des quarts d'heure, des demi-heures de travail.
Ouais. Et donc du coup, moi, je suis OK pour le faire jusqu'à 9h, mais plus, c'est compliqué pour moi.
Ouais. Voilà. Et ces derniers temps, j'arrive à... Bon, je termine vers 9h10, mais... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des 9h30, des 9h45.
Naotech ne sera sur aucun salon cette année. Jérôme, tu devrais faire une vidéo pour l'expliquer.
Ouais, c'est vrai que ben, je ne peux pas aller au Mondial World Congress parce qu'on part au Vietnam. Et je n'irai pas au NAB parce que...
Enfin, on n'y est pas allé les autres années, non?
Hein?
On n'y est pas allé les autres années?
Oui, oui, mais là, je ne serais vraiment aucun salon. Je ne fais ni CES, ni Mobile World Congress, ni aucun salon, quoi.
Enfin, le CES, tu l'as fait deux fois.
Oui, mais j'essaye d'aller plus dans les salons, et oui, cette année, voilà.
C'est quoi le bruit en photo?
Le bruit en photo, en fait, c'est autrefois on appelait ça le grain, c'était le. Mais en fait, quand ça manque de luminosité, l'appareil, le capteur va avoir du mal à interpréter, donc il va rajouter une espèce de granularité, une granularité mais colorée. C'est pas joli comme du grain photo, comme on avait ces effets de grain. Ça va créer des petites aberrations avec des pixels de couleurs qui n'ont rien à voir là. C'est ça qu'on appelle le bruit numérique, en fait, en photo.
Juste pour revenir, hein, au beau, suffit d'arriver au boulot à 15h, on peut te faire un mot. En fait, c'est juste pour mettre une limite. Parce qu'on glisse très vite à faire 9h20, etc.
Ouais, ouais, ouais.
Et si, en fait, on veut pouvoir concilier l'émission du matin avec nos travaux respectifs.
Ouais.
Non, c'est bizarre. Ouais. Nos jobs respectifs, eh ben, il faut quand même se fixer une limite. Et du coup, je suis un peu plus intransigeante que Jérôme sur cette limite.
Voilà. Même pas le salon de l'agriculture. Ouais, je vais manquer le stand Reblochon.
Bonjour, je voulais savoir si le Château est un bon PC pour les programmeurs web. Le Château?
Le Shadow, je pense.
Ah, d'accord. Et lorsque vous faites... lorsque vous êtes connecté au PC Shadow, votre propre PC passe pour quel périphérique?
Je comprends pas. Alors, d'abord, première partie de ta question, on n'est pas programmeur. Donc, mais dans l'absolu, oui, je pense que ça peut être un bon PC pour les programmeurs. Ensuite, comment on... Bah, le PC Shadow, tu peux accéder à ton PC... avec quasiment n'importe quel device, soit par un autre PC, soit avec la box, soit avec une tablette, soit avec ton smartphone. Le principe, c'est comme ton PC sur le cloud, tu n'as que besoin d'un objet qui puisse recevoir les images de ton PC, le flux vidéo, et qui puisse retransmettre des infos de ta souris et de ton clavier.
Nos voilà. Emplois, merci de nous aider en français. Il était bon le Burger King.
Ah oui, on a été capté alors avec Karina parce qu'on était au Burger King vendredi. Ouais, on a été capté.
Félicitations pour cette régularité pour tenir vos Texcopes contre vente. Zémaré, vous êtes toujours à la barre. Bravo, j'ai souscrit un abonnement Tipeee comme contributeur.
Bah, merci à toi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, GSR. Merci. Grain et bruit, c'est la même chose ?
Pas tout à fait, parce que le grain en photo, c'est plutôt quelque chose qu'on va rechercher. Ça vient des vieilles péloches qui avaient du grain. Le bruit, au contraire, on va plutôt chercher à s'en débarrasser.
Merci, Eruro Koya. Pour la programmation sur Shadow, sois quand même prudente. Tu ne peux pas faire de machine virtuelle dessus.
Ah si, moi, on m'a dit le contraire.
Ah.
Tu peux faire une VM dans une VM dans une VM dans une VM. Hein. Mais après, j'y connais rien. Hein.
Non, Shadow n'est pas fait pour les devs, encore moins pour les devs web. Il y a trop de contraintes sur le local.
D'accord, bon, bah voilà, t'as ta réponse d'un.
Voilà,
d'un
nous, dev. On n'y connaît rien. On n'est pas développeurs ouais. là-dessus.
Connais-tu le logiciel Satellite ? Non, je ne connais pas. Ça sert à quoi à installer des lumières ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Encore 5 minutes. Il est 8h55. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci. Hein. En tout cas, aussi, j'ai répondu à pas mal de questions samedi sur le G80 et le M50. Je pense que je vais faire ça quand je peux. C'est pas mal, les facs sur Instagram. Ouais. Donc, si vous avez des questions à me poser, que je ne vous ai pas répondu sur YouTube, que je ne vous ai pas répondu sur Twitter, parce que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde... Guettez un peu mon Instagram et mes stories. De temps en temps, je ferai des facs. Surtout quand, en fait, c'était pratique parce que samedi, j'avais des courses à faire, du ménage et tout. Ça me permet de faire quelque chose de gratifiant pendant que je fais des trucs chiants, en fait. Genre les courses et le ménage. Donc, je pense que c'est un format que j'aime bien faire, ces facs sur Instagram. Donc, suivez-moi bien sur Instagram. Jérôme, _ Nowtech. Voilà. Bah, en fait, ça me prend moins de temps. Beaucoup de gens m'ont dit, mais t'es fou, parce que j'ai répondu à plein de questions. Ça me prend beaucoup moins de temps que de taper des réponses pour tout le monde. Hein. Et puis, surtout, je peux faire autre chose en même temps. Quoi. En me baladant et tout ça, je peux répondre aux questions.
Alors, où peut-on trouver un G80 à 549€ ? Car généralement, on le trouve à 699. Oui, tu peux utiliser le dénicheur pour ça, peut-être.
Voilà, et guetter les promos, hein, Nicolas. Il faut surtout guetter les promos.
Là, en cette période de solde, peut-être utiliser ouais. le dénicheur, ça peut peut-être t'aider à ouais. trouver des prix. Nous, c'est vrai que quand on cherchait un peu des objets tech, ça nous permettait de vérifier un peu.
C'est possible de découper le replay par sujet pour simplifier le partage ? Non, ça serait trop de boulot, Luc. À l'heure actuelle, ça serait un boulot énorme.
Mais il est fait, en fait, la Timothès le fait, puisqu'ils mettent le lien dans le sommaire ouais. avec les minutes. Les Donc, minutes. Du coup, tu peux retrouver les sujets et liés avec les minutes directement en regardant le sommaire. Il faut attendre un petit peu que la Timothès ait le temps de le faire, mais tu le trouveras ensuite pour pouvoir partager les sujets.
J'ai regardé la Compa Lumix Canon, une autre marque Mammouth chez Nikon. Non, il n'y a rien chez... Alors, que ce soit clair, parce que les Nikonistes me tombent dessus. Chez Nikon, en termes de vidéo, n'oubliez pas que je parlais de vidéo débutant sur YouTube, dans cette gamme de prix qui était, on va dire, des boîtiers à moins de 600€, il n'y a rien chez Nikon d'intéressant. Leur nouveau, le Z6, notamment, est intéressant en vidéo. Beaucoup de vidéastes s'y intéressent, mais il est beaucoup plus cher. Donc... c'est pas un boycott de Nikon du tout, c'est simplement que dans cette gamme de prix, non, rien, Nikon, que j'ai trouvé intéressant pour la vidéo spécifiquement.
Je suis passée d'un XS Max au XS normal, mais quelle déception au niveau de l'autonomie, pire que le X. Oui, bah.
Non, moi j'ai.
Moi bah, j'ai pas trop de problèmes. Hein.
Mais toi t'as pas le XS.
Ah oui, moi j'ai.
Toi, t'as le X.
Oui.
Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait des problèmes énormes d'autonomie. Peut-être, oui. La perte. Allez, je vais être d'une petite demi-heure par rapport au 10. Mais j'ai pas eu un truc aussi flagrant que ça. Hein.
Oui, ils le font super vite, l'index, la Timothès. Ils sont trop forts.
Ouais.
Tant mieux. Bah, tu vois, voilà, tu peux partager comme ça. Bah écoutez, est-ce qu'il y a une dernière question?
D'accord, Satellite simule un studio photo. Non, mais j'ai jamais essayé.
Ah, c'est intéressant.
Mais c'est intéressant, ouais.
Merci pour vos contenus de qualité. J'ai pris l'habitude de vous regarder le matin.
Eh bien, c'est une bonne habitude. Très bonne habitude.
Bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, on va vous souhaiter une excellente...
Ah non, oui, il ne reste plus qu'une minute. Donc, juste le temps de se dire au revoir.
Une excellente journée. On vous retrouve déjà demain matin à 8h avec Jérôme. Moi, je vous retrouve mercredi matin à 8h. Et puis, très bon début de semaine à tous. Bon courage et couvrez-vous bien.
L'Olympus, il est plus cher. Allez, à demain.